France Culture. Bonjour Diane Curis.
Bonjour Caroline Brouet.
C'est le quatrième temps de nos entretiens à voix nue qui en compte cinq, je le rappelle. Alors après l'histoire de vos parents, l'enfance et l'aventure de Diabolomante, la question de l'intime, intime d'une époque, intime d'un couple, je voudrais aujourd'hui que vous nous parliez des femmes dans votre cinéma. De fait, en revoyant l'ensemble de vos 15 films, il me semble que les premiers rôles sont quand même avant tout des rôles de femmes.
Oui. Et c'est curieux parce que j'ai réalisé ça très tard. J'avais pas l'impression que les femmes étaient tellement en avant dans mes films. C'est assez récent. C'est peut-être avec Me Too, c'est peut-être avec tous les courants actuels que j'ai réalisé ça. J'ai compris, je me suis dit, mais c'est vrai que les personnages principaux, c'est des femmes tout le temps. Et puis des femmes qui veulent être libres et des femmes qui veulent s'émanciper. Oui, j'avais pas conscience de ça. Du tout.
Voilà. Ben voilà, maintenant,
c'est un fait.
Je peux. Et alors, c'est vrai des personnages, déjà. Alors, on peut commencer par la figure de la mère, qui est peut-être la femme qui vous a inspiré. Vous nous avez déjà dit, hein, au cours de ces épisodes, à quel point c'était une femme libre et émancipée. Et ça, j'ai l'impression qu'on le retient beaucoup. Donc, la mère, et puis comme c'est quand même la figure qui revient dans quelques-uns de vos films, plusieurs.
Mais... Ouais, ouais. Il y a la mère et puis il y a aussi les actrices qui m'incarnent moi, c'est-à-dire il y a moi dans tous les films quasiment, soit représentée par une petite fille, puis une adolescente, puis une jeune femme, puis une femme adulte. Enfin, oui, les personnages féminins sont essentiels dans ma vie. C'est vrai que moi, j'ai été élevée dans un milieu de femmes, il n'y avait que des femmes. Les lycées étaient des lycées de filles. Il n'y avait pas de garçons autour de moi. J'ai découvert les garçons quand j'avais 15 ans, quoi. En fait, en allant dans ces fameux mouvements de jeunesse, c'est là que j'ai vu, ah, les garçons, ça existe. Vraiment, on était très dans un espèce de gynécée tout le temps. Et j'avais pas beaucoup d'amis filles non plus, donc j'avais pas beaucoup d'amis en réalité. Donc j'ai toujours eu un rapport comme ça compliqué, ambigu, par rapport à la féminité, les femmes. Et en réalité, non. Mes films racontent des histoires de parcours féminin, oui, comment on vit quand on est une femme, comment on se libère quand on est une femme de cette époque-là, comment on réagit, comment on aime, comment on n'aime plus. Oui, c'est essentiel, bien sûr.
Alors, il y a votre mère, il y a vous. Il y a le personnage de Madeleine, qui est important. C'est Miu Miu dans Coup de Foudre. C'est Clotilde M dans Pour une femme.
Oui, c'est le même personnage. Elle incarne l'amie, la confidente, celle qui va pousser vers la liberté, qui va être peut-être le personnage plus moderne, plus proche de nous, et qui va aider le personnage incarné par Isabelle Huppert ou par Nathalie Baye, par exemple dans ces deux films, à se libérer, à quitter son mari, quoi, à demander la séparation, le divorce. Bon, c'est une époque où on ne divorce pas beaucoup, hein. Moi, dans ma classe d'école, de lycée, je crois qu'on était 3 ou 4 enfants de divorcés. Bon,
alors que le rapport s'est inversé.
Ça c'est complètement inversé, bien sûr.
Bon, alors après, il y a les personnages qui ne sont pas directement liés à vous, mais que vous avez choisi de mettre en scène. Georges Sand, Françoise Sagan, Simone Signoret. Quel est le lien entre les trois, en dehors de vous?
Ces trois femmes qui ont écrit, même si Simone Signoret était avant tout une actrice, elle est devenue un écrivain et elle souhaitait, d'ailleurs elle aimait ça, elle aimait écrire. Ces trois femmes fortes, ces trois femmes qui ont été des figures féministes et qui ont pris leur destin en main, même si quand on voit Moi qui t'aimais, on s'aperçoit que Simone Signoret a eu plus de mal à prendre son destin en main parce qu'elle était quand même très liée à Yves Montand et qu'elle avait du mal à... comment dire, s'il avait fallu qu'elle se sépare, je ne sais pas si elle aurait réussi, en vrai, je ne sais pas. Elle avait sa personnalité, c'était une femme très forte, elle le tenait, au fond. Mais je pense qu'elle souffrait de ce côté volage et macho qu'il avait, insupportable. Voilà, aujourd'hui, on dirait qu'elle était sous emprise, et d'une certaine façon, je pense qu'elle l'était, ou elle acceptait ça.
Vous iriez aussi loin ?
Oui, mais je pense qu'elle avait une telle force et une telle force de conviction. Elle était si intelligente, elle était cultivée. D'une certaine façon, elle le dominait intellectuellement, on va dire. Bien qu'il ait fait des progrès au fur et à mesure de sa vie et qu'il ait tellement lu et tellement, il se soit tellement cultivé que finalement ils sont arrivés presque au même niveau. Elle avait quand même une emprise aussi sur lui. Voilà, c'est un couple indéfectible, indestructible. Elle le dominait aussi sur le plan politique, parce que je pense qu'il est né dans un milieu communiste, elle pas. Mais je pense que le dialogue qu'ils avaient perpétuel, permanent, la recherche, les rencontres qu'ils faisaient, tout ça, ça devait être passionnant pour lui comme pour elle. Donc, il y avait un lien d'esprit autant que d'amour. Enfin, je pense qu'il y avait beaucoup de choses. C'était très riche, leur relation. Voilà.
Une dépendance affective qui est plus d'un côté que de l'autre, malgré tout, diriez-vous?
Je ne sais pas, il ne l'a pas quitté.
Il ne l'a pas quitté.
Il a trahi, bafoué, trompé. Il a été. Aujourd'hui, on n'accepte plus ça. On l'acceptait à l'époque. En plus, c'était un acteur. Donc, toutes les actrices et toutes les jeunes filles étaient à ses pieds. C'était une époque comme ça. Voilà, on ne peut pas le nier. Mais il ne l'a pas quitté. Tout en la trahissant de multiples fois, il est quand même resté avec elle. Et je crois qu'il l'aimait profondément.
Donc, ce qui vous a donné envie, Diane Curis, de faire ces films sur George Sand, alors c'est George Sand et Musset, hein, c'est une histoire d'amour, sur François Sagan, alors là, c'est vraiment François Sagan, oui. Avec tout ce qu'il y avait autour, mais enfin, c'est vraiment François Sagan, et Signoret, c'est aussi Signoret et Montand dans la relation de couple. C'est donc des femmes qui écrivent, des femmes fortes, vous diriez autre chose?
C'est des figures publiques, c'est des femmes très connues. Sand, à son époque, elle est très connue. C'était la première femme écrivain connue qui vit de sa plume. Ça n'existait pas avant. C'est une femme libre. Elle divorce à une époque où le divorce n'existe quasiment plus. Il a été aboli par Napoléon, puis il a été réinstitué. Mais c'est une femme qui a vraiment été un exemple pour toutes les féministes qui ont suivi du monde entier. Elle prend un nom d'homme. C'est caricatural de dire « elle met des pantalons ». Bon, elle met des pantalons parce que on salit le bas de ses robes dans la ville à Paris à l'époque, mais elle a ce côté, elle a deux enfants, elle part à Paris avec ses deux enfants sous le bras et elle se met à vivre, pas comme un homme, comme une femme, mais comme une personne libre, comme une personne indépendante. Donc elle est très, très exemplaire, c'est un personnage très fascinant, elle vit très longtemps et puis elle aime beaucoup de choses, elle fait la cuisine, elle aime la nature, enfin c'est un personnage multiple. Sagan, c'est une femme plus rebelle, plus elle est célèbre à 19 ans. Elle écrit ce Bonjour Tristesse qui tout à coup la propulse au sommet. Elle est la femme la plus connue de son époque aussi. Et en plus, c'est une petite jeune fille libre, entre guillemets. Donc, elle fait scandale. Puis, elle fait encore plus scandale parce qu'elle vit comme un homme à l'époque. C'est-à-dire, elle fait ce qu'elle veut. Elle voyage, elle prend des amants, elle boit, elle fume, elle se drogue. Enfin, il y a tout, quoi. Et puis, elle aime les femmes. Donc, il y a dans ce personnage de Sagan une multiplicité de facettes. Et c'est en l'écrivant, ce scénario, c'est en la découvrant que... Moi, je la connaissais pas, Sagan. Je l'ai jamais rencontrée. Et je l'ai découverte en faisant le film.
Vous l'aviez lu
Oui, bien sûr.
J'avais lu Bonjour bon Tristesse.
Bien sûr. Oui, j'avais lu Sagan.
Notamment.
J'ai lu beaucoup ses livres quand j'ai fait le film. C'est un personnage fascinant parce que justement, oui, c'est des femmes qui prennent la parole. Les trois dont je parle là, Signoret, Sagan, Sand. D'ailleurs, leur nom commence par un S, toutes les trois. Je ne sais pas pourquoi, c'est un hasard. J'y vois un signe, je ne sais pas pourquoi.
Vous aimez le S qui ouais. Finit votre nom à vous.
Voilà.
Bon. Alors, les personnages, ils sont incarnés au cinéma. Ils sont incarnés par des actrices, en l'occurrence, bon, puisque vous parlez de Sang, c'est Sylvie Testu, avec qui vous avez tourné Pour une femme aussi, et puis Arrête ton cinéma, qui est adapté de son propre livre. Oui. On en parlera un peu plus tard de celui-là dans l'épisode qui terminera nos entretiens. Mais votre rapport aux actrices, alors, quand on regarde, là c'est aussi, j'ai repris la filmographie, il y en a beaucoup, hein. Je vais les citer quand même. Isabelle Huppert, Miu Miu, Nathalie Baye, Juliette Binoche, Fanny Ardant, Sophie Marceau, Anne Parillo, Béatrice Dalle, Sylvie Testu, Marina Foïs, et je ne les cite pas toutes, mais je cite les rôles principaux. J'ai un peu envie de vous retourner la question dans l'autre sens, et avec lesquelles vous n'avez pas tourné.
Oh, bah, j'ai aussi tourné avec... Oui, non, j'ai...
Il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, mais j'ai
et pas les moindres.
J'ai pas tourné avec toutes. J'ai pas tourné avec Catherine Deneuve. J'ai pas tourné avec Marion Cotillard. Il y a beaucoup d'actrices avec lesquelles j'ai pas tourné. Mais j'ai tourné avec des actrices qui toutes m'ont marqué. Je sais pas si vous avez cité Béatrice Dalle.
Si, oui, oui.
Voilà. Non, j'ai... Ah, c'est les rôles qui s'imposent tout à coup, comme je disais l'autre jour, l'image d'un personnage se superpose avec la photo d'une actrice, et puis on se dit bah tiens c'est elle. Voilà, c'est comme ça que j'ai engagé Éléonore Clarvin, qui n'a pas continué dans ce métier, qui a fait d'autres choses dans sa vie pour Diabolomante, mais j'avais une photo en noir et blanc d'elle sur mon bureau et j'avais rencontré toutes ces petites filles pour faire le film et je voyais, j'étais fascinée par son regard, son mystère. Et c'est cette photo qui m'a attirée, voilà, et je voulais la rencontrer et on me disait elle est pas à Paris, elle est en Espagne, tu peux pas la voir, elle est en vacances, elle viendra pas. Et je n'avais de cesse, je voulais qu'elle vienne, je voulais la voir. Alors je lui ai parlé au téléphone, j'ai dit je t'en supplie, il faut que tu viennes à Paris. Elle est venue, elle est rentrée dans mon bureau. Ah, j'ai dit mais c'est elle. Je ne me souviens même pas de lui avoir fait lire une scène. Elle dit aujourd'hui qu'elle a lu une scène, mais bon, je m'en souviens pas. Mais c'est ces images-là qui se superposent à des personnages. Bon, là, on parle d'actrices connues, c'est-à-dire toutes celles que vous avez citées.
Très connues.
Sont très connues. Mais elles ont correspondu à une époque, aux personnages que je voyais dans ma tête. Isabelle Huppert a joué. Elle a joué ma mère et elle a joué moi. Donc, elle est vraiment comme une... Oui, une figure, elle dédoublée de deux personnages. Enfin,
c'est votre mère, c'est dans Coup de foudre.
C'est dans Coup de foudre.
Et vous, c'est Après l'amour.
C'est dans Après l'amour, voilà. Elle joue le personnage d'un personnage qui s'appelle Lola et qui essaie d'écrire un roman et qui vit avec Bernard Giraudot. Ça s'appelle Après l'amour. C'est l'histoire d'un couple qui s'est aimé et est-ce qu'ils vont rester ensemble? Est-ce que l'amour va durer? C'est une femme qui est déchirée entre deux hommes. Qui tous les deux ont des enfants et elle n'a pas d'enfants. Donc c'est un film sur aussi un peu le désir d'enfant ou pas, la question de est-ce que la maternité est obligatoire ou pas, ça questionne ce sujet-là.
Isabelle Huppert, donc vous l'avez fait tourner deux fois, Sylvie Testu trois fois. Les autres, toutes celles que j'ai citées, c'est plutôt une fois. Est-ce que là, c'est parce que voilà, ça s'impose par rapport à un personnage? Est-ce que c'est des relations après plus personnelles avec l'une et l'autre, par exemple?
On est très amis. Je suis très amie avec Isabelle. Je pense que c'est ma meilleure amie. On se connaît depuis toujours.
Depuis le bar de la Fourche.
Depuis qu'on a joué ensemble, oui. Moi, j'étais
avec Jacques Brel.
Voilà, c'était son premier film comme actrice et c'était un de mes premiers petits rôles de soubrette avec Jacques Brel, absolument. Et on se connaît donc depuis très 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 longtemps et on est devenus très amis un tout petit peu plus tard, je pense après Coup de foudre. Avec Sylvie Testu, on est aussi très très proches et très amis. On se parle tout le temps. C'est pas une question d'amitié choisir un acteur ou une actrice. C'est une question de moment. Il faut que ce soit le bon timing. Il faut que ce soit encore une fois cette superposition entre une vision qu'on a à l'intérieur, en tête, dans le cœur, et une actrice. Alors il faut qu'elle soit libre à ce moment-là, qu'elle aussi elle ait envie. Enfin c'est pareil pour les acteurs d'ailleurs. Et c'est pas une question d'amitié. Je pense pas qu'on travaille forcément avec ses amis. On devient quelquefois amis après les tournages. Mais Fanny Ardant, on est amis depuis 30 ans aussi et on se connaît très bien. Et j'ai tourné avec elle très tard. Je lui ai proposé un rôle qu'elle a accepté et c'était merveilleux de tourner avec elle parce qu'elle est très marrante dans un tournage. Elle aime tellement tourner que c'est un plaisir, quoi. C'est un bonheur. Elle adore ça.
Quelle directrice d'actrice êtes-vous? Déjà, si vous aimez ce mot directrice pour les comédiens.
La plupart des metteurs en scène vous diront, et ils ont raison, qu'on ne dirige pas les actrices ou les acteurs d'ailleurs. On les choisit. Si on les choisit bien, si on ne s'est pas trompé trop, en général, ça se passe bien. Ce qui ne se passe pas bien, c'est quand on a fait une erreur de casting. Ça peut arriver. Mais ça, je crois que. En plus, moi, je dirige de moins en moins. Je dirigeais plus quand je faisais mes premiers films. J'avais une idée très précise de ce que je voulais et surtout entendre plutôt que voir. Donc je dirigeais presque en fermant les yeux, au son. Un peu comme Francis Weber raconte qu'il fait, il faut que la musique soit juste. Et en fait c'est idiot parce que la musique elle peut être transformée après à la synchro. Donc c'est absurde. Mais c'est comme ça que je dirigeais. Et d'ailleurs dans Diabolomante, pour revenir très rapidement à ce premier film, je dirigeais les figurants. C'est-à-dire que toutes les petites figurantes des salles de classe, là, je les dirigeais les unes après les autres. Je ne savais pas à l'époque qu'on confie plutôt ça à l'assistant parce qu'on n'a pas le temps. Et moi, j'avais pris en charge toute la direction de toutes les petites filles du film. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont très très bien dans le film. Quand on revoit Diabolomante, la justesse du film tient aussi à ce que les salles de classe, on y croit. Et c'était évident qu'il fallait y croire. Voilà. Mais la direction, pour en revenir à ça, la direction d'acteur, je pense que c'est, on montre ce qu'on n'aime pas, on réagit. Vous savez, les acteurs, quand ils tournent, les actrices, tout de suite, quand on dit couper, le regard de l'acteur ou de l'actrice se tourne directement vers le metteur en scène, tout de suite. Il ou elle cherche l'approbation. C'est bien, c'est ça que tu voulais. Donc, c'est un rapport comme ça dans le regard. Et le regard que vous leur lancez, bah, il exprime tout. Il veut dire oui, oui, formidable, ou bien peut-être on peut aller plus loin, peut-être on peut en faire moins. Enfin, c'est des dosages en réalité. J'ai appris assez vite, peut-être au troisième ou quatrième film, qu'il fallait pas trop indiquer de choses aux acteurs, fallait pas trop leur parler. Faut les laisser un peu apporter leur travail, leur cuisine, leur recherche, leur réflexion, leur émotion. Donc, faut d'abord leur laisser à eux une prise ou deux pour eux, comme ils veulent, comme ils sentent. Puis ensuite, on corrige. C'est presque comme un peintre qui rajouterait ou enlèverait au fur et à mesure sur la toile. Si on dirige trop, si on dit c'est ça que je veux, c'est comme ça que je veux la scène, en général, on les bloque, on les coince. Et puis, c'est pas comme ça qu'ils ont imaginé, pas forcément. Quand ils ont appris leur texte dans leur petite chambre, bah, ils ont imaginé un décor, ils ne le connaissaient pas. Ils ont imaginé une intensité, une émotion ou pas. Et donc, c'est ça qu'ils vont restituer à la première prise. Alors, ça dépend si on a répété, fait des lectures avant, pas fait des lectures. Ça dépend un peu du processus de travail, de la préparation au film. Si on a eu le temps de parler, de lire, d'expliquer, de poser des questions, en général, ils sont davantage prêts. Si, au contraire, et ce qui arrive souvent avec un acteur qui arrive pour 2 jours de tournage ou même 1 heure de tournage, là, le pauvre acteur, il s'est préparé depuis 2 jours, il a en général un peu de trac, il arrive, il connaît personne, c'est très compliqué. C'est cette personne-là qu'il faut aider, c'est cette personne-là qu'il faut écouter, regarder. Il faut que les acteurs autour soient attentifs à lui ou à elle. C'est ça qui est important, c'est les seconds rôles dans ces cas-là. Mais diriger vraiment, dire si, c'est ça, non, je crois que... Et puis, il faut essayer aussi, j'ai appris ça assez tard, les accidents arrivés. Parce que une scène, et une belle scène, et une scène réussie, c'est souvent une scène où il y a eu un accident. Et maintenant, je les cherche, les accidents. Avant, j'en avais peur.
Avant, vous contrôliez tout.
Quand il y avait un accident, je disais couper. J'étais complètement novice, je savais rien. J'ai compris plus tard que c'est l'accident qui fait la beauté de la scène, c'est comment l'acteur va réagir justement à l'accident. Il ne faut pas couper, il faut continuer, il faut pousser, il faut laisser l'improvisation arriver. C'est ça qu'on aime quand on voit un film. Quand on voit de la vérité, finalement, ce qu'on cherche au cinéma, c'est penser que c'est vrai, penser que ce qui arrive sur l'écran se passe vraiment. Et c'est pour ça que c'est si difficile de faire des scènes de violence ou de faire des scènes d'amour, parce qu'on ne peut pas pousser les gens à l'excès dans un sens ou dans l'autre. Donc, il faut faire semblant, il faut faire croire, tout en cherchant de la vérité. La vérité d'une émotion, la vérité d'un sentiment. Et c'est ça, moi, c'est ce que je recherche au cinéma. Quand je suis dans mon fauteuil et que je regarde un film, j'ai envie de penser que ce qui se passe à l'écran se passe, vraiment, pour être touché.
Puisque vous parlez des scènes d'amour, vous avez commencé d'en parler à l'épisode précédent. On parlait de un homme amoureux, des enfants du siècle et de la façon dont vous filmiez ces fameuses scènes d'amour. Il se trouve que vous filmez l'émancipation féminine, mais jusque dans ces sujets tabous qu'on montrait guère encore il y a 40 ans, la sexualité, le désir, le plaisir féminin, justement. Aujourd'hui, on parle de female gaze, du regard féminin. Est-ce que ça vous parle, vous, ou est-ce que vous avez fait avec ce que vous étiez, et en l'occurrence, vous étiez une femme, vous êtes là aussi jamais posé la question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous regardez aussi la façon dont vous filmiez cette nudité, cette sensualité, autrement ?
Oui. Aujourd'hui, alors influencé certainement par le courant irréversible qui est en train d'advenir, je regrette, oui, certains regards, certaines scènes que j'ai tournées. Oui, je demandais à une actrice de se déshabiller sans aucun souci, sans aucun problème. Je le ferai plus maintenant, quand c'est pas nécessaire. Et parfois, ça n'a pas été nécessaire. Et donc, je m'en veux un peu. Je me dis, mais quand même, t'as vraiment eu un... C'était dans l'époque. Donc, je ne m'excuse pas, je m'en veux. Je me dis, bon, aujourd'hui, je ferai plus ça. C'est vrai.
C'est marrant que vous disiez ça, parce que Vous avez parfaitement raison, d'ailleurs, c'est tout à votre honneur de le dire. Mais quand je posais la question du film Elgaise, c'était plutôt dans l'autre sens vous concernant. C'était justement dire, bah, vous avez filmé des scènes de plaisir qui ne passent pas par une exhibition de scènes sexuelles très explicites, mais bien plutôt par une durée des regards, une complicité des corps, une main effleurée, un rire partagé. Et bon, mais oui, il y a peut-être eu effectivement des mises à nu d'actrices qui n'étaient pas nécessaires, mais bon.
Y a les deux, c'est-à-dire je pense que j'avais le regard d'une femme sur ces scènes, sur ces moments, sur cette idée de montrer ce que ça peut être le plaisir féminin ou ce que ça peut être justement le désir dans une scène d'amour, principalement un homme amoureux, parce que c'est vraiment là où je me suis posé la question. J'ai dit, je fais un film d'amour, il va y avoir de la sensualité, il va y avoir des scènes d'amour, il faut vraiment qu'elles soient pas ratées, parce que souvent elles étaient raté au cinéma dans ce que je voyais. Mais quand je disais il y a deux minutes, quelquefois je m'en veux, c'est dans d'autres films où tout à coup je me suis dit, quand je revois un film, j'ai fait un film qui s'appelle L'Anniversaire à un moment et j'ai demandé à une actrice de nager seins nus comme on le faisait à l'époque, hein, dans la piscine et de sortir les seins à l'air. Et quand je regarde le film, je me dis, bah, c'était pas la peine. Hein. C'est pourquoi t'as fait ça? Et je me le demande encore. Alors donc c'est plutôt une autocritique.
Absolument.
En revanche, je pense que quand on parle de film Elgaise, c'est par opposition au male gaze, c'est par rapport à la façon dont d'abord c'était des hommes la plupart du temps qui faisaient des films, et c'est vraiment par rapport à ce regard sans complexe, quoi, des hommes qui finalement étaient eux-mêmes en tant que metteurs en scène un peu voyeurs de la scène qu'ils allaient tourner. Ça, c'est vraiment pas mon cas. Moi, je suis plutôt gênée dans ces scènes-là. Je demande effectivement aux équipes de sortir. C'est pas très agréable parce qu'on est comme ça, du coup, un peu voyeur de la scène qu'on est en train de tourner. Et c'est pas mon truc du tout. Donc, il y a du respect, mais que j'ai essayé de faire, et quand vous parlez de ce female gaze que j'ai peut-être eu, c'est parce que j'ai essayé d'être honnête, authentique, vraie, pas racoleuse, et donc de montrer, encore une fois, c'est surtout un homme amoureux dans lequel il y a des scènes d'amour importantes et que j'aime et qui sont, je pense, réussies, entre guillemets, je crois. C'était vraiment une volonté. Je voulais que ce soit bien, je voulais que ce soit audacieux, et que ce soit choquant dans le bon terme. C'est-à-dire que, dans le bon sens du terme, on se dit, ah ouais, oh, dis donc, elle va loin quand même. Mais j'allais pas loin dans ce que je montrais. J'allais loin dans ce que j'exprimais, dans la façon dont les acteurs le faisaient. C'est ça. Faut avoir vu les scènes pour comprendre ce que je dis. Ouais. Mais vous les avez vues.
Moi, je les ai vues, mais on laisse les spectateurs et spectatrices potentiels regarder et faire leur propre avis.
Aller regarder un homme amoureux.
Exactement, ouais. On peut le voir. Vous parlez de choc. D'où, mais de choc, ce qui m'évoque le thème de la réception de vos films. Si je prends un exemple, Coup de foudre, 1983, Coup de foudre, grand succès, Coup de foudre également, et le film a quand même été nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Vous l'avez accompagné, Diane Guris, à ce moment-là. Mais dans Coup de foudre, et on l'a déjà évoqué, il y a un lien ténu, ambigu, entre Miu Miu et Isabelle Huppert, qui joue ces deux femmes, la mère et Madeleine, lien ambigu qui dépasse l'amitié, qui laisse poindre une forme de désir féminin, traité avec beaucoup de délicatesse, mais peut-être que dans les années 80, c'était frontal. Parce que le désir féminin, voire l'amour entre femmes, dans les années 80, et déjà aujourd'hui c'est pas si évident quand même, mais dans les années 80, qui plus est filmé par une femme, ça l'était encore moins. Vous vous souvenez comment ça a été reçu, de ce point de vue-là?
C'est
un geste politique quand même à l'époque.
Le film a été reçu, alors le film a moins marché en France qu'aux États-Unis. Là, il était un énorme succès en Amérique, il est resté un an à l'affiche à New York, peut-être à cause de la nomination à l'Oscar, mais aussi parce qu'il il rassemblait tout un public très en avance à l'époque sur l'homosexualité féminine. Et d'ailleurs, quand je suis allée présenter le film là-bas, je disais, mais non, c'est pas une histoire d'homosexualité, c'est une amitié amoureuse, oui, elles cèdent l'une l'autre, elles s'aiment, c'est sûr que c'est de l'amour, mais c'est pas un film, elles cherchent des hommes les deux, hein. Elles sont pas pures et dures homosexuelles. Et je comprenais pas bien pourquoi j'étais rentrée dans ce cercle aux États-Unis, j'étais un peu étonnée. En France, on m'a reproché de faire des portraits d'hommes très négatifs. Voilà, c'était ça un peu la critique. Quand on dit, oh là là, mais vos deux hommes, là, Jean-Pierre Bacri, Guy Marchand, c'est des crétins, quoi. Vous les montrez comme deux idiots.
Et alors?
Et en fait, moi, je disais non, je les montrais tels que je les ai vus, imaginés. C'est des personnages que j'ai connus. Et je crois pas du tout.
C'est pas les hommes, c'est ces deux hommes.
Mais c'est ces deux hommes-là. Et puis, c'est parce que les femmes prenaient leur liberté et se sauvaient, finalement, de ces deux mariages qui les enfermaient, que les hommes critiques, il y avait plus d'hommes critiques à l'époque, me reprochaient ça, me disaient « mais alors vos portraits d'hommes ne sont pas justes du tout ».
Et est-ce qu'on vous a dit, Diane Curie, que vous faisiez des films de bonnes femmes, qui racontent des histoires de bonnes femmes ?
Non, mais c'est vrai que, rétrospectivement, je m'aperçois qu'en effet, il y avait une sorte de petite condescendance. Moi, je me défendais d'être une femme cinéaste. Je suis une cinéaste, je fais du cinéma. Je suis aussi petite, blonde, enfin, je suis pas que femme. Femme, évidemment, je suis, mais c'est... Vous voyez, je me défendais toujours. Et un jour, j'avais fait une interview avec une fille de Marie-Claire qui s'appelait Michèle Manceau, et elle était venue chez moi, et j'avais tenu ce discours comme ça. Oui, bien sûr, je suis féministe, oui, bien sûr, je défends les femmes, mais c'est pas mon premier combat. Mon premier combat, c'est de raconter des histoires qui plaisent à tout le monde, aux hommes comme aux femmes, etc. Et à la fin de l'interview, je l'avais raccompagnée à la porte, elle m'avait dit, vous savez, je vais vous dire, quand je suis partie du journal, il y a un collègue qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et j'ai dit, je vais interviewer Diane Curis. Et il m'a répondu, ah oui, la petite comédienne. Et j'avais déjà fait 3 films. Et j'étais déjà une cinéaste. Et donc, ce petit mépris, elle me l'avait balancé comme ça. Comme, ne croyez pas ce que vous dites, parce que il y a vraiment une condescendance. Il y a vraiment. Et il y en avait une à l'époque. Beaucoup moins maintenant. Je crois qu'on s'est vengé. On s'est rattrapé. Il y a beaucoup plus de femmes cinéastes en France que dans le monde entier. Et il y a beaucoup plus de femmes cinéastes en général dans le monde entier aujourd'hui. Donc, on accepte plus volontiers que les femmes puissent prendre la parole et faire des films. Mais comme je m'en défendais beaucoup à l'époque, elle a eu raison de me... Je m'en rappellerai toute ma vie. Elle a eu raison de me dire, ne croyez pas qu'il n'y a pas de misogynie dans ce métier. Il y en a une énorme et vous en êtes la victime. Ne l'oubliez jamais.
Est-ce que vous pensez que vous avez la juste reconnaissance du milieu? Vous n'avez jamais eu de César, par exemple, qui est un peu le Graal, enfin disons les reconnaissances... Oui, du monde du cinéma, est-ce que vous êtes sensible aux honneurs, aux non-honneurs de ce milieu?
Parfois, je me dis, oui, je suis pas dans tous les livres sur le cinéma. Oui, parfois, je me dis, il y a une petite... Je sais pas si ça tient au fait que je fais ce qu'on appelle maintenant le cinéma d'auteur commercial. Donc, faut être ou auteur ou commercial, on peut pas être les deux. Donc, comme les films ont marché plus ou moins, alors je fais pas partie du sérail du cinéma d'auteur pur. Voilà. Et comme je suis aussi productrice de mes films, alors on doit se dire, oh là là, elle doit être pleine d'argent et très riche, etc. Donc, tout ça fait que je rentre pas dans des cases simplificatrices, on va dire. Donc, je n'ai pas les honneurs de certains journaux, de certaines presses. Mais il faut que je vive avec ça, parce que mon but et mon plaisir dans la vie, c'est de faire des films, d'essayer de faire qui marche et qui plaise au plus grand nombre. Et puis voilà, j'en ai fait beaucoup. J'ai de la chance parce qu'ils passent pas mal à la télé. Ils ne disparaissent pas complètement. Certains ont disparu, mais disons que donc je me plains pas de mon sort et je me plains pas non plus de la façon dont je suis traitée. Mais c'est vrai que par moments, je me dis, bah tiens, pourquoi je suis pas dans cette liste-là de femmes qui ont fait du cinéma et qui ont fait des films qui ont marché. Je sais pas, mais bon, pas grave.
Bon, l'essentiel, c'est que vous fassiez votre cinéma. C'est ce qu'on verra dans le dernier épisode, l'épisode 5. Faire son cinéma. Vous parlez du métier de productrice. On commencera par ça. Merci beaucoup, Diane Curis, et à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Diane Curis. Réalisation Anne Pérez Franchini. Prise de son Jérôme Casamayou. Chargée de programme À Voix Nue Daphné Agral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.